pas croyable. On peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous et bienvenue dans Nos Adorés, c'est Julie Sigel. Heureuse de vous retrouver, les ados. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous recevons Delphine, qui est orthophoniste dans la région de Strasbourg et qui va nous parler de sa profession et qui va nous répondre en fait à tous les questionnements qu'on peut avoir en tant qu'ado par rapport à notre graphie et notre...
Oui, c'est plus large. Bonjour.
Bonjour,
Julie.
Bonjour, pardon. Oui, on allait se lancer tout de suite, on était déjà à fond. Donc c'est très large, oui, on va essayer d'aborder pas mal de thèmes et ouais. En même temps, on va essayer d'être précis, donc on va être limité dans les thèmes. Hein, c'est ce qu'on
on
se disait
essayer.
En préparant.
On va essayer.
Voilà, c'est on va essayer.
Pas facile et l'orthophoniste parle beaucoup.
Ah bon?
Ah ben, professionnel de la communication, donc forcément...
Ah oui, d'accord.
Ah ouais, je suis très bavarde.
Depuis
alors,
toute
on
petite
y va.
Depuis toute petite, tu parles beaucoup ?
Non, tu verras.
On va en parler
on
alors.
On va en parler.
Bon, on va se lancer direct en commençant avec notre première rubrique.
Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique. Et vous, quel ado étiez-vous ?
Bah oui, comme on parle aux ados, on parle de l'adolescence, donc on parle de l'adolescence de nos invités systématiquement. Alors, Delphine ?
Eh oui. Alors, moi, j'ai grandi, je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris, je suis arrivée à Strasbourg à 20 ans, donc toute mon adolescence, je l'ai passée à Paris. Je dirais que c'était une adolescence ni très heureuse, ni très malheureuse. Donc un petit peu difficile de se positionner. J'étais beaucoup dans l'observation des autres,
d'accord.
Dans l'observation des relations, en fait, je pense, entre les autres. Mmh. Et très attirée par observer comment fonctionnaient les groupes.
Et, ah, c'est intéressant.
Ouais, je crois que j'ai des souvenirs comme ça vraiment au collège où j'avais besoin de regarder comment fonctionnaient les groupes, les gens, ils sortaient, ils se retrouvaient. Il y avait toutes ces premières sorties du samedi soir. Mmh. Il fallait demander aux parents si on avait le droit de sortir, jusqu'à quelle heure. Et en fait, c'était des choses auxquelles je ne participais pas tellement.
Ah, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, tu étais dans un groupe ?
Eh ben non, moi, mmh. J'étais pas dans un groupe. Et en fait, je pense que ça a été, je pense, une souffrance à un moment.
Oui.
Parce que quand on est ado, on a besoin de s'identifier, de
ouais,
faire
gros
comme
besoin
les autres.
D'appartenance.
Exactement, de faire comme les autres. Et en même temps, on a envie de faire comme les autres, mais on sent qu'on n'est pas forcément vraiment comme ça et qu'on n'a pas forcément ce besoin-là. Mmh. Donc je regardais, j'observais. Voilà, mais j'étais bien dans mes relations duelles avec mes copines.
D'accord, oui, tu avais besoin de, voilà, d'avoir une relation intime.
C'est ça, mmh. Voilà. Donc
une vraie
en fait,
relation.
J'avais deux, trois copines qui ne se connaissaient pas forcément entre elles.
Ouais,
du coup,
oui.
Ça ne faisait pas un groupe.
Ouais.
Du coup, on n'était pas un groupe de copines mmh. Où tout le monde était copine entre elles. J'avais une relation avec un tel que j'avais rencontré à cet endroit-là, une relation avec mmh. Une telle que j'avais rencontré à cet endroit-là, et j'avais des relations très fortes avec chacune d'entre elles.
D'accord.
Mais pas tellement sous forme de groupe. Ça, c'est arrivé plus tard, en fait.
Mmh.
Peut-être un tout petit peu après l'adolescence, au début de la vie de jeune adulte, on va dire.
Quand tu es arrivée à Strasbourg ? Parce que c'est à
ben
Strasbourg
oui. Mais
que
en fait,
finalement...
Ben oui, c'est ce qui a fait que je suis arrivée à Strasbourg
aussi. Les gens sont chouettes, quoi. Hein.
Ben,
pas se le cacher.
C'est ce qui a fait que je suis arrivée à Strasbourg.
Ouais,
l'appartenance
d'accord.
À un groupe.
Ah, c'est drôle.
Et oui.
Ah ouais,
ouais,
bon.
C'est marrant.
Bon, comme on ne peut
voilà.
Pas faire l'émission sur... Mais ça... Du
allez.
Coup, bah, ça nous laisse un petit suspense quand même. Mais enfin, ce n'est pas grave. On va essayer de parler brièvement de ton parcours quand même, Delphine.
Oui.
Tu es devenue orthophoniste.
Oui.
C'était une vocation...
Alors non, ce n'était pas une vocation.
D'accord.
Alors, j'étais pas... Je ne suis pas une excellente élève au collège et au lycée. J'ai eu mon bac avec à peine une 10 de moyenne. Et je ne savais pas ce que j'allais faire après.
Mm-hmm.
Alors, je savais que j'aimais bien, j'aimais bien les enfants, que j'aimais bien être au contact des enfants.
D'accord.
J'aimais bien tout ce qui touchait au médical.
Ouais.
Donc j'ai évoqué la psycho, mais je ne me sentais pas forcément à 100% vouloir aller dans cette voie-là. La médecine me fascinait, mais j'avais pas du tout le niveau et la capacité pour me lancer dans cette voie. Être instite, ça permettait aussi d'être avec des enfants, de travailler autour de la pédagogie, de l'apprentissage, mais je ne sentais pas non plus être face
d'accord.
à une classe.
Donc, tu avais voilà. plein de pistes.
Plein de pistes, et finalement, c'est un jour, ma tante qui m'a dit bah, « Pourquoi pas orthophoniste ?» Et puis,
et voilà. là, paf.
Et puis, moi, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Mmh. Et en fait, il s'est trouvé que l'orthophonie, pour moi, se trouvait un petit peu au carrefour de tout ça.
D'accord.
Voilà. De...
Et donc, on fait une école d'orthophonie ?
Alors, du coup...
Comment ça se passe ?
Ouais. Alors, l'école d'orthophonie, c'est attaché à la fac de médecine.
D'accord.
C'est un concours pour y rentrer. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui font une prépa ortho pour passer le concours. Mmh. Donc, moi, j'avais fait une prépa après le bac à Paris. Et puis, j'ai passé les concours et voilà, je l'ai eu à Paris. Et au moment où j'ai fait mon transfert, enfin, où je suis venue habiter à Strasbourg, j'ai fait un transfert de dossier.
Ah, on peut faire ça.
Ben, à l'époque, enfin, ça
à
date.
À l'époque, on pouvait.
Ouais, j'étais promo 1996-2000, donc il y a quelques années.
Oui,
hein,
on n'était pas
et à l'époque, c'était 4 ans d'études et maintenant, c'est passé à 5 ans.
Ah, d'accord.
Ouais.
Très bien.
C'est passé à 5 ans.
Bon, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire des petites choses sur ton métier dont finalement on sait peu de choses, hein. On a une idée. Si on a un enfant qui a une problématique particulière, bah, on sait ce que tu fais ou ce que vous faites dans le cadre de la profession. Mais c'est un peu flou pour nous tous, je t'avoue. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense.
Alors, c'est un peu flou et en même temps, on en parle quand même beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, l'orthophonie, c'est presque devenu...
Un passage obligé pour
ouais,
beaucoup d'enfants.
C'est ça. Et en fait, ben, il ne faut pas. Enfin, il faut que ça reste ce que c'est à la base.
D'accord.
Il faut que ça reste ce que c'est. L'orthophonie, ce n'est pas du soutien scolaire. Ce n'est pas obligé d'y aller. L'orthophonie, c'est... on est bien dans le champ du paramédical.
Mm-hmm.
Clairement. Quand on vient chez l'orthophoniste, on entame un parcours de soins.
D'accord.
L'orthophonie, on y arrive sur prescription médicale. Donc c'est quand même, on va chez le médecin, on évoque les difficultés avec son médecin.
Et
le
on
médecin,
oriente, on est orienté, je veux dire,
et le médecin oriente
l'orthophonie.
Exactement. Mmh. Il fait une prescription pour un bilan d'orthophonie.
Oui, on ne le décide pas soi-même en tant que parent ou en tant qu'enfant.
C'est ça. On ouais. peut aller en parler. On peut aller en parler avec son médecin. Moi, quand des gens me téléphonent pour prendre rendez-vous pour un bilan, ma première question, c'est de leur demander, mais qui vous envoie ?
Oui.
Et s'ils me disent, ah ben c'est moi, parce que je trouve que mon enfant a des difficultés.
Ça donne un peu la température, j'imagine.
Oui, alors c'est pas pour autant qu'il ne faut pas entendre la demande des parents,
non,
parce
évidemment.
Qu'elle est très importante
oui.
et qu'ils connaissent
le
leur
parent connaît son
et
que... enfant.
Exactement,
sûr.
Exactement. Mmh. Mais je les invite toujours à. D'abord, je leur rappelle qu'il faut une ordonnance, je leur demande s'ils ont une prescription. Et je leur demande.
Et quel type de médecin ?
Alors peu importe, ça peut être le médecin qui suit l'enfant. Moi j'aime bien que ça soit un médecin qui connaît
qui
l'enfant.
Qui connaît le gamin.
Pas le... Enfin. Quand c'est juste le généraliste de quartier chez qui on va juste chercher l'ordonnance, voilà, je trouve que c'est quand c'est un médecin qui connaît l'enfant ou un pédiatre, normalement les pédiatres sont censés à 2 ans faire des... Enfin, ils le font, hein, parce que mon pédiatre l'a fait avec mes enfants. Hein,
oui, bah, il y a même des pages dans le
c'est ça.
Carnet de santé. D'ailleurs.
Exactement. Mm-hmm. Donc il y a des petits tests de langage à faire, il y a des petits tests qui ont été élaborés justement pour les pédiatres. Au moment de la grande section de maternelle aussi, hein. En maternelle, il y a des
non, moi je pensais bêtement que c'était les médecins scolaires, tu vois. Je me suis dit que c'était peut-être
non,
des choses
le
qui étaient un peu prescrites
non.
par les enseignants et que le médecin scolaire, du coup...
Alors non, l'enseignant, il ne peut pas prescrire.
Non, prescrite, pas peut... dans le sens faire une prescription, oui. dans le sens, voilà, dire il y a quelque chose qui cloche, est-ce que, voilà...
Ça l'enseignant arrive. Peut trouver... Oui, bien sûr,
ça arrive.
Bien sûr, bien
d'accord.
sûr. Mais après, le parent, effectivement, va chez le médecin. Et donc voilà, le médecin généraliste ou pédiatre, ça peut être aussi l'ORL, ça peut être...
Là, on a parlé des petits pour le moment. Et comme tu ne l'ignores pas, puisque tu es une grande fan de l'émission, tu me l'as dit.
Oui, absolument.
Je suis flattée. Ici, on parle ici des ados. Donc est-ce que la démarche est un peu différente quand il s'agit d'adolescents ?
Alors, la démarche, elle n'est pas différente en termes de prescription.
D'accord.
Donc ça, de toute façon, c'est obligatoire et il faut aller chez le médecin chercher une ordonnance. Là où c'est un petit peu différent, c'est que quand on m'appelle pour une demande de bilan pour un ado, j'aime bien proposer aux parents de discuter avec son ado pour lui demander s'il veut venir tout seul. S'il veut venir accompagné de son parent, si leur laisser un petit peu le choix. Parce qu'en bilan, il y a une première partie du bilan qui s'appelle l'anamnèse. où on pose toute une série de questions pour connaître un petit peu...
Comme en psychologie, en fait. Connaître un peu le parcours, alors, l'histoire.
C'est ça, le parcours médical, quelles sont les difficultés, etc. Et je trouve que là, c'est important que l'ado puisse dire ce dont il a envie à ce moment-là. Est-ce qu'il a envie que son parent soit là? Est-ce qu'il préfère être tout seul? Parce qu'il peut être en difficulté si c'est le parent qui répond à sa place.
C'est vrai.
Il peut
les parents.
Pas être à l'aise. Voilà.
Petit clin d'œil.
Je trouve que c'est important de leur laisser, en tout cas, leur place pour se positionner dès le bilan et dès l'anamnèse en tant qu'acteur de, d'une éventuelle rééducation.
Et de ça va dépendre leur investissement aussi,
exactement,
je pense, dans le parcours.
Tout à fait.
D'accord.
Voilà. Donc ça, je trouve que c'est important.
Donc, donc les ados que tu reçois, en gros, est-ce que tu as une méthode particulière pour travailler avec les ados? Non pas une méthode d'orthophonie particulière, là je te parle vraiment en tant qu'humain. Quelles sont tes techniques pour que ça colle avec les ados, en gros, hein?
Alors, c'est difficile de parler de technique ou de méthode. Je crois que d'abord, on fait notre métier, et on fait notre métier avec ce qu'on est.
C'est ça. C'est pour ça que je parlais de toi en
particulier. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien mettre en place une communication agréable. J'aime bien que l'ado se sente à l'aise pour qu'il puisse investir. J'ai pas envie qu'il se sente forcé.
D'accord.
Donc, c'est vrai que je leur rappelle que je suis pas enseignant, que je suis pas l'école, que je suis pas leur parent.
Et que tu n'es pas une punition.
Que je suis pas une punition et que moi, je fais juste mon job et qu'avec mon métier et mes connaissances, j'essaye de lui donner ce que je sais. À lui de le prendre.
Est-ce que c'est un peu comme les premières séances d'abdos? Au début, on a l'impression que ça va être insurmontable et au fur et à mesure, ça devient plus fluide. Ou bien, je parlais de l'ado, de son ressenti par rapport aux séances qu'il peut faire avec toi. Ou c'est tout, il voit vite la progression.
Je pense pas. Je pense que si ça se passe bien dès le départ, il le sent tout de suite. Après, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des petits moments de lassitude, il peut y avoir des phases où on a moins envie, mais c'est aussi des choses qui peuvent se dire.
Et c'est pas grave. Que toi, tu es prête à entendre.
Mais complètement. Mmh. Et en fait, nous, on est là pour apporter une certaine technique, pour essayer d'amener des progrès, mais on est là aussi pour s'adapter. Et il m'est déjà arrivé de dire à un ado, mais qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Et en fait, en fonction de ce qu'il me répond, c'est à moi de m'adapter.
Chouette.
Donc, j'essaie d'attraper ce qui m'amène pour pouvoir faire quelque chose. Je n'ai pas de plan de rééducation. Je sais, dans les grandes lignes, ce que je dois travailler.
Bien sûr.
Mais je ne me dis pas forcément... Enfin, je ne prépare jamais mes séances à l'avance. Parce que de toute façon, je sais que je ne le respecterai pas.
Oui, oui. Puis tu connais tellement ton métier qu'en fin de compte, voilà, tu sais toujours retomber sur tes pieds.
Et c'est ça.
Voilà. C'est de la flexibilité avant tout, j'imagine.
Exactement.
Du coup, quand toi, tu prends un ado en charge, donc tu viens nous dire que tu sais quel est le but à atteindre et qu'ensuite, selon, c'est ce que j'ai compris, hein, selon le tempérament de l'ado, ses envies, ses besoins du moment, toi, tu vas adapter ton protocole. Donc, c'est très intéressant et on a oublié de le dire, peut-être que tout le monde ne le sait pas, ce sont des séances individuelles.
Oui.
Tu es en face à face avec l'ado. Hein,
alors, on est en
relation. Ou en visio, hein, quand des fois le contexte le demande.
Tout à fait. On est en relation duel. Alors, la nomenclature autorise des séances de groupe. Donc, ça se pratique. Ça se pratique. Hein, ça existe. Moi, je ne le fais pas.
Ouais.
Mais ça existe.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Donc, on penserait plutôt peut-être, je ne sais pas, à des ateliers d'écriture, des choses comme ça qui pourraient se faire ensemble.
Peu importe. Ça peut être des ateliers d'écriture. Alors, ça peut être... je sais qu'il y a des spécificités, notamment dans les prises en charge, par exemple, de patients qui présentent des troubles autistiques. Ça peut être intéressant de travailler en groupe pour travailler la communication, la pragmatique, l'adaptation, faire des jeux théâtraux, etc.
Très bien. Ben, merci. En fait, une fois la rééducation faite, c'est pour la vie, hein, quand on va chez toi. Il faut quand même le préciser, ou pas. Oh là là, j'ai dit une bêtise.
Non, tu dis pas une bêtise. Mais... tu dis pas une bêtise. Alors, évidemment qu'on attend qu'on essaye de faire le maximum pour qu'il y ait des progrès et pour que le patient puisse se sentir à l'aise et que le trouble soit rééduqué, puisqu'on est quand même bien sur du trouble, sur de la rééducation, sur du parcours de soins. Donc effectivement, on peut imaginer qu'une fois que la thérapie est finie, tout va mieux. C'est pas toujours aussi simple. En tout cas, ça dépend des pathologies. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle de l'orthophonie telle qu'on la connaît, on va dire, dans les cabinets de ville où on reçoit beaucoup d'enfants autour de prise en charge du langage oral et du langage écrit. Les prises en charge des ados qui sont souvent centrées sur des difficultés, des problématiques du langage écrit et des troubles dysorthographiques, on va les aider à progresser. Mais ce qui est acquis va être acquis pour la vie. Mais ce n'est pas pour autant que la dyslexie n'existera plus.
Oui, justement, ça c'est quelque chose que j'ai compris en fréquentant pas mal des dyslexiques, adultes aussi, c'est que la dyslexie, c'est pour la vie. Mais on apprend à le gérer.
C'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Voilà. Pour moi, on est, je pense que quand on est dyslexique, on le reste, mais qu'on apprend à compenser. Et qu'évidemment, comme on est tous différents, chacun va le compenser à sa manière. Et chacun va progresser au fur et à mesure de la vie, de la maturité.
Et je me suis rendu compte en tant qu'enseignante, dans un parcours comme ça, dans une scolarité, dans un parcours d'ado, quand la dyslexie est détectée qu'à l'adolescence, ils ont tellement compensé.
Exactement.
Que détricoter leur compensation est difficile. Et il y a même certains orthophonistes qui m'ont aussi dit des fois, bah, écoutez, s'il est à peu près bien comme ça, c'est pas la peine non plus de...
Ouais.
Voilà, de troubler plus que ça l'animal.
C'est pour ça que je dis que dire que quand il y a des progrès, c'est pour la vie. En fait, ça voudrait dire que tout est réglé et que...
Ah oui, je l'ai mal formulé. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, tu donnes les clés, tu donnes peut-être un mode d'emploi pour arriver à savoir comment...
Oui, bien sûr, voilà, mais pour s'adapter à un moment précis, en fonction d'une problématique précise.
Ah, oui.
Après, au fur et à mesure
ce que tu veux dire.
De la vie, j'ai envie de dire, il va avoir, et le but c'est qu'il trouve tout seul aussi des moyens de compensation.
Parce que c'est vrai que moi qui suis donc enseignante en anglais, je me rends compte que les problématiques des dyslexiques ne sont pas les mêmes en français et en anglais, par exemple. Voilà. Donc ce que j'entends quand tu me dis oui, ça va dépendre aussi du parcours de vie, etc., c'est voilà, si tout à coup dans ton métier tu es amené à pratiquer beaucoup l'anglais et que tu as été rééduqué, ta dyslexie a été gérée en français par exemple. Je dis ça, c'est peut-être bête, hein, mais tu m'arrêtes si je me trompe. Ça peut recréer peut-être des troubles pendant un petit moment ou ça peut générer des petits inconforts, on va dire.
Bien sûr. Mmh. De toute façon, au cours de la vie, une personne dyslexique peut rencontrer des difficultés parce que tel événement se présente à lui et que ça s'était jamais présenté et que du coup, la dyslexie refait à ce moment-là un petit peu... irruption, ou du moins elle revient on se dit, ah bah mince, elle est encore là, celle-là. Bah oui, mais j'ai les moyens d'essayer de m'adapter. C'est à chaque fois, c'est en ça que c'est aussi un petit peu fatigant.
Et que les dyslexiques
sont
dire.
Fatigués.
Ouais. Et c'est pour ça le tiers-temps, c'est pour ça voilà, plein de choses aussi, parce qu'une concentration maximale est nécessaire, notamment durant les examens, et que c'est important de demander en tant qu'ado, n'hésitez pas, si vous avez cette particularité, à faire une demande de tiers-temps. L'enseignant vous le doit, de toute façon, et aux examens officiels, on vous le doit aussi.
Oui, mais il faut savoir utiliser ce tiers-temps.
Voilà,
on en avait parlé. Et
j'avais envie de te poser la question.
C'est ça, pour quelqu'un qui se fatigue
du temps,
vite, d'un
paradoxal.
Point de vue cognitif, rajouter une heure, en fait, il est juste épuisé.
Alors, c'est quoi le truc? Comment on fait?
Eh bien, en fait, c'est là où je pense que nous, on peut intervenir aussi dans la prise en charge avec les ados. C'est à les aider à utiliser ce tiers-temps, à comprendre précisément là où ils ont des difficultés et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de les aider.
Parce que ça peut être un cadeau empoisonné, en réalité, c'est ça que tu me dis?
Ça peut. Souvent, on se rend compte, moi j'ai souvent entendu, alors je ne sais pas, je ne suis pas là aux examens, mais j'ai souvent entendu que souvent dans les salles de tiers-temps, parce que je crois que tous les élèves qui passent des examens avec un tiers-temps supplémentaire sont ensemble. Mm-hmm. Et en fait, très souvent, il y en a qui partent avant.
Oui.
Alors on se dit, mais ils ont droit à leur tiers-temps et ils s'en vont.
Oui,
tiers-temps?
Je me suis déjà dit que le tiers-temps n'est pas obligé d'être utilisé. Il est comme un petit joker que tu as dans la poche et ton joker, tu ne l'utilises pas systématiquement.
C'est
ce que je me disais en voyant les élèves
de toute façon, y a pas de règle.
De terminale partir de, des salles. L'enseignant est plutôt content parce qu'en général, il doit rester plus. Donc, quand ils partent tous, l'enseignant est satisfait. Voilà.
En fait,
il est en vacances en général.
Je trouve ça intéressant qu'il y ait des possibilités pour ceux qui en ont besoin.
Oui.
Ce n'est pas parce qu'il y a un tiers-temps
autoriser que tous les dyslexiques vont avoir le droit à ce tiers-temps et que tous les dyslexiques vont utiliser ce tiers-temps. Mmh.
C'est vrai.
Donc, en fait, il faut juste que chacun puisse s'adapter. Et je crois que c'est vraiment une histoire d'adaptation et de compensation, en fait.
D'accord. Mmh.
Et je trouve que là, nous, on peut vraiment
avoir un
intervenir.
Rôle. Ouais. Et quels sont, parce que le temps passe, hein, on discute et c'est très chouette, on a deux émissions. Oui. On vous l'annonce là tout de suite, la semaine prochaine, Delphine sera encore avec nous. Donc, pas de panique, on a des choses à se dire, on va se les dire. Quelles sont les problématiques les plus courantes pour lesquelles, toi, tu reçois des ados? Donc, on a parlé des 10, on vous invite à aller voir en ligne ce que c'est les 10, donc dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Est-ce que c'est ces enfants-là, enfin ces ados-là que tu vois le plus?
Oui.
Oui,
oui, c'est d'accord. Ces ados-là que je vois le plus. Il faut quand même rappeler que la dyslexie est un trouble de la lecture qui peut toucher le déchiffrage, mais également la compréhension.
Oui, bah oui, évidemment.
La lecture.
Ouais, bien sûr.
L'un, l'autre, les deux. Mmh. Donc c'est finalement un trouble assez complexe dans lequel on va aussi écarter d'autres pathologies. C'est-à-dire que la dyslexie peut être... Des troubles d'acquisition de la lecture peuvent être conséquences d'autres pathologies plus sévères.
Oui, mais pas systématiquement.
Mais pas systématiquement. Mmh. Certains ne sont que dyslexiques,
ouais.
Sans autres pathologies associées et sans autres troubles associés.
D'accord.
Donc nous, on reçoit évidemment... Enfin, moi, je reçois des ados, soit... entre guillemets, que dyslexiques, soit des ados qui ont des troubles de la lecture ou de l'écriture associés à d'autres pathologies.
D'accord, oui. Et alors, une question que je trouvais importante, c'est comment faire quand on est parent face à une équipe pédagogique qui est quelquefois, enfin, qui se positionne, disons, différemment que le parent, malgré la prescription, malgré etc. À l'école, comment on peut faire pour adapter en fait les enseignements et comment, enfin, rapidement, comment l'équipe pédagogique finalement peut s'adapter un peu à la nécessité du trouble de l'ado. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois.
Parce qu'on en a parlé aussi avant.
Je vois.
On en a parlé aussi en préparant l'émission et c'est vrai que c'est un sujet complexe.
C'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe parce que nous. C'est difficile, on peut pas. C'est difficile d'appeler les enseignants et de dire vous devez faire ci ou ça. Ouais. Parce que de quel droit, on ferait ça? Et puis je rappelle quand même que l'orthophonie, encore une fois, est une profession paramédicale et qu'on est tenu au secret professionnel.
Ah, en plus, oui, c'est vrai.
Donc on n'est pas, absolument pas censé fournir des informations de ce qui se passe en séance ou même de transférer un diagnostic. Sans avoir demandé l'accord du patient.
D'accord. Mmh.
On n'est pas censé transmettre nous-mêmes un compte-rendu d'orthophonie à une équipe pédagogique.
D'accord.
Le compte-rendu, il est rédigé à la fin du bilan.
Oui.
Et il appartient au patient.
Mmh.
Donc, je pense que, effectivement, les parents avec un compte-rendu orthophonique peuvent... effectivement, rencontrer l'équipe enseignante, le professeur principal, les professeurs dans lesquels il peut y avoir des difficultés, pour évoquer les difficultés de leur enfant. Mmh. Mais pour aller plus loin et parler d'aménagement, je crois que les équipes de médecine scolaire sont les mieux placées, à savoir l'infirmière scolaire.
D'accord.
Ou le médecin scolaire. Ouais. Les infirmières scolaires, elles sont chouettes. Moi, j'en ai eu plein au téléphone,
de temps en temps.
Ou les infirmiers, pardon.
Non, je t'en prie.
Enfin, infirmières scolaires, qui sont... qui, chaque année, en début d'année, ont des dossiers, des piles de dossiers de PAP qu'elles mettent en place.
Et puis qui assistent à des réunions interminables à chaque fois.
Voilà, ouais. Exactement. Et je crois qu'ils sont... Normalement, les parents, en tout cas, peuvent aller rencontrer la médecine scolaire pour évoquer les difficultés des enfants. Et,
mais ce qu'on n'a pas dit, mais on le dit implicitement, c'est que ça nécessite aussi une formation chez les enseignants quand même. Hein, parce que les pauvres, quand on a une classe de 32 élèves et qu'on a 4 PAP, parce
que ça nous est tous arrivé. Bien sûr que c'est hyper compliqué pour les enseignants.
Voilà,
bien sûr,
c'est hyper évidemment. Compliqué pour les enseignants, mais donc ça serait bien, qu'il y ait des moyens, qu'il y ait des formations,
bien
qu'ensuite on leur explique quels outils pédagogiques ils peuvent utiliser, ne serait-ce qu'utiliser la couleur, projeter
bien
les
sûr.
Cours, mettre
bien
certaines lettres en
bien
rouge,
sûr.
Enfin, il y a des choses à faire, écrire en majuscule, photocopier en plus grand.
Il y a pas mal d'infos quand même sur le site de l'Académie de Strasbourg.
Ah, d'accord.
Il y a
chouette.
Un dossier, il y a un onglet enfant en élèves en difficulté.
Mm-hmm.
Et il y a.
Des petits outils.
Ah, ben, y a même, je crois que j'ai même vu un dossier d'une quarantaine de pages ou d'une cinquantaine de pages sur des idées d'aménagement.
Oui, bah, encore une fois, c'est voilà. à l'enseignant de faire la démarche et d'aller chercher l'info. On ne va pas la lui fournir comme ça dans le cadre de formation et c'est un peu dommage.
Ouais.
Toi, tu ne fais pas des formations comme ça au sein d'équipes enseignantes ?
Non. Alors, si. Alors. Pas de formation. Non, je ne fais pas de formation.
Tu fais de l'information.
Je fais de l'information ouais. et avec l'accord du patient, toujours.
D'accord.
Je les préviens toujours si je peux appeler
Oui, tu demandes l'autorisation.
Voilà,
ouais.
exactement. Je demande l'autorisation. Et voilà. Et effectivement, de temps en temps, quand il y a des PAP, les parents amènent le PAP, me le montrent, me le demandent si c'est bien, me demandent si les aménagements proposés sont bien pour
l'enfant.
Oui,
parce qu'encore une fois, en tant que parent, on n'est pas non plus forcément spécialiste du trouble de notre enfant, de notre ado. Hein.
C'est ça. Donc, effectivement, je donne des petits conseils.
Super.
Voilà.
Bon, bah merci en tout cas pour ce dialogue éclairé.
Merci beaucoup.
Et on va se dire à la semaine prochaine et on répondra aux questions de nos ados, parce qu'ils avaient des questions à te poser.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
C'est incroyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,